glaube, dass man in der politischen Arbeit auch zum Machbaren kommen muss und nicht zu lange sich eigenen Diskutieren verlieben sollte. Einsicht. Also vielleicht habe ich da ein autoritäres Verhalten in mir.
Dans le travail politique, il faut arriver à ce qui est faisable. Se prendre en main et ne pas discuter trop longtemps de sa propre vie. Peut-être que j'ai un comportement autoritaire en moi. Nous sommes en 1991 et c'est ainsi qu'elle se décrit, la jeune ministre des Femmes et de la Jeunesse, Angela Merkel. Ça ne fait pas si longtemps que la docteure en chimie a mis le pied en politique. 14 ans plus tard, à peine, la voici chancelière. L'Allemagne, homme malade de l'Europe après la réunification, devenue première puissance économique de l'Europe, Angela Merkel l'a donc accompagnée 16 années. Et on connaît ces chiffres fous. L'Allemagne, superstar des exportations, industrie conquérante, pays au plein emploi et finances publiques solides. Des chiffres que l'on agite dans les débats, qui servent de pivot aux comparaisons avec la France. Alors sans aucun doute, il y a des leçons à tirer de cet exceptionnel cycle de prospérité. Des exemples, également des contre-exemples. Au bout de 16 années, les Allemands regardent aussi l'envers du décor. Le climat, le numérique, les inégalités, la démographie. Émission spéciale ce samedi, à la veille du scrutin allemand. C'est parti.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 10h et donc ce matin, tout ce qu'il faut savoir et aussi tout ce qu'il faut oublier au sujet de notre puissant voisin, une émission consacrée à l'Allemagne, on n'arrête pas l'écho. C'est le plus allemand des patrons français et inversement, le directeur général d'AXA a une connaissance très fine des deux pays. Thomas Buberl est le grand témoin du Mag Écho. Il sera en direct avec nous d'ici une demi-heure. Depuis 1997, il n'en était plus vraiment question outre-Rhin. Mais avec la pandémie et la facture de la crise, eh bien, la conversation a changé. Le débat sur l'impôt sur la fortune est de retour outre-Rhin. Vous entendrez le dossier de notre correspondant Ludovic Piétenu. Est-ce un des facteurs de la puissance économique allemande? Dans les conseils d'administration des grandes entreprises, les salariés sont présents et ils pèse. On a rendez-vous avec Madame Vieux-Boulot pour son regard sur comment ça s'appelle déjà là?
La Mitbestimmung, qui donne beaucoup de pouvoir aux salariés et on en est très jaloux.
La co-gestion, tout savoir sur la co-gestion à l'allemande, ça sera juste avant 10h, Sandrine, on vous retrouve. Mais tout de suite, et comme chaque samedi, les débatteurs avec le directeur de l'Institut Montaigne. Bonjour Laurent Bigorgne.
Bonjour.
Et Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives Économiques. Bonjour Christian.
Guten Morgen.
Très bien.
Alors,
ok, bah si vous êtes tous entraînés, alors, on va y aller. Savons-nous vraiment quelle puissance est l'Allemagne? Dans un instant, Christian, Laurent, vous vous attaquez à nos idées reçues. Mais juste avant, on se fait un petit plan large sur l'ère Merkel.
C'est une Allemagne en pleine impasse politique qui célèbre aujourd'hui le 15e anniversaire de sa réunification. Et ce soir, pour la première fois depuis les législatives du 18 septembre, Gerhard Schröder laisse entendre qu'il pourrait renoncer à la chancellerie.
Le futur chancelier allemand sera donc une chancelière. C'est Angela Merkel qui prendra prochainement la tête d'un gouvernement de coalition avec les sociaux-démocrates du chancelier sortant Gerhard Schröder. Fini l'accolade ou la poignée de main virile, c'est par un baise-main que Jacques Chirac a accueilli aujourd'hui à l'Elysée la nouvelle chancelière allemande.
2009, Angela Merkel est à nouveau chancelière.
Acclamée par son parti qui criait « Engie, Engie ». Et ce qui nous étonne, c'est qu'elle reste simple. La femme qui dirige la quatrième puissance économique mondiale habite dans le centre de Berlin, au quatrième étage d'un petit immeuble gris, en bas duquel se trouve une taverne.
2013.
C'est assez rock'n'roll les meetings de Merkel. Hein.
Oui, hein, vous avez entendu, bas plafond, sono pas terrible, pas mal de jeunes, du orange partout, c'est la couleur de la campagne de la CDU, des chapeaux orange, des glaces à l'eau orange.
Angela Merkel est même venue deux fois hier soir à son QG de la CDU pour remercier des militants ivres de joie. Il faut dire aussi que la bière coulait à flot.
Deutschland ist ein starkes Land. Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das.
Après s'être distingué par sa politique d'ouverture vis-à-vis des réfugiés, l'Allemagne, maintenant, semble en proie au doute.
Angela Merkel, sait-elle où elle va?
2017.
Angela Merkel lance sa campagne pour les législatives de septembre. La chancelière promet le plein emploi en 2025.
Et au final, une victoire au point pour la chancelière.
France Inter, 7h36, direction l'Allemagne maintenant, où la victoire a un goût amer pour la chancelière Merkel.
Oui, elle rempile pour un quatrième mandat, mais jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, son parti, la CDU, n'avait fait un score aussi mauvais. Et ces élections ont également ouvert les portes du Bundestag à 90 députés d'extrême droite.
On arrive au bout d'un processus absolument classique, où à la fin, comme depuis 12 ans, c'est Angela Merkel, la chancelière Teflon, qui l'emporte. En 14 années de pouvoir, Angela Merkel n'a jamais manqué une seule journée de travail.
Et là, on en est à 16 années. Donc, sur les deux dernières années, est-ce que la Superfrau a raté une journée au boulot? Nous n'avons pas l'info, je dois l'avouer. Donc, 2005, 2009, 2013, 2017, 4 élections, 4 victoires pour Angela Merkel. Cette fois-ci, elle n'est pas candidate, ça change tout. Il va y avoir des choix à faire, des bifurcations pour comprendre où le pays en est vraiment. Eh bien, ce matin, avec les débatteurs, on va faire un vrai ou faux sur 3 idées reçues. Et je me tourne d'abord vers vous, Christian. Première idée reçue, largement partagée en France, l'Allemagne est un champion industriel. Vous allez me surprendre, vrai ou faux? Vrai ou faux?
Alors, aujourd'hui, évidemment vrai, quand on regarde la part de l'industrie dans l'ensemble de la richesse produite en Allemagne, c'est à peu près 20%, chez nous 10%. Donc, du simple au double, on voit que ça marche plutôt pas mal. 180 milliards d'excédent commercial quand la France est en déficit. Donc là, on se dit, puissance industrielle, puissance exportatrice, qui va pouvoir combattre en Europe contre l'Allemagne? Sauf que quand vous regardez bien dans le détail, vous apercevez qu'il y a deux fragilités extrêmement fortes et que ça va planter l'industrie allemande, je pense. La première, c'est la dépendance à la Chine. Vous prenez les importations plus les exportations de l'Allemagne, l'INSEE allemand s'appelle Destatis, ça nous dit ça fait 213 milliards et ça fait 5 ans de manière consécutive que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Allemagne. Si la Chine fait des excédents autant, c'est parce qu'elle vend énormément à l'Allemagne, à la Chine. La Chine est en train d'entrer, et déjà entrer dans un modèle économique moins dépendant de l'étranger. Ça va être plus difficile pour n'importe qui d'exporter.
Vous voulez dire que les machines-outils allemandes, c'est une fragilité. On les vend trop à la Chine, les Allemands les vendent trop à la Chine. Là, il y a un danger.
Il y a un danger, d'autant plus que vous voyez que rentre aujourd'hui en Europe, de manière générale, et en Allemagne de manière particulière, des produits typiquement, des biens d'équipement typiquement produits par l'Allemagne et qui arrivent importés de Chine aujourd'hui. La Chine est devenue le concurrent, sera de moins en moins le débouché de l'Allemagne et de plus en plus le concurrent sur le marché chinois, mais aussi sur le marché européen. L'Allemagne, vous l'avez dit Alexandra, vend des biens d'équipement à la Chine, mais aux autres pays émergents aussi. Or, on note depuis plusieurs années, c'est d'ailleurs un grand souci au niveau mondial, le ralentissement de l'industrialisation des pays émergents. Voilà encore d'autres marchés au-delà de la Chine qui vont fragiliser les exportations allemandes. En plus, l'Allemagne nous pose un problème avec la Chine. Vous vous rappelez cette affaire de sous-marin qu'on n'a pas réussi avant?
Allez-y.
Qu'est-ce qui s'est passé? Joe Biden, quand il arrive au pouvoir, il dit « Attention les Ouïghours qui sont massacrés, attention les protestants, tous ceux qui protestent à Hong Kong pour sauver la démocratie ». C'était quoi la réponse de l'Europe? En fait, la réponse de l'Allemagne. Eh ben nous, on signe un accord d'investissement avec la Chine parce qu'il faut qu'on vende à tout prix à la Chine. C'est ça, cette fragilité économique est aussi une fragilité politique pour l'Allemagne et pour l'Europe. Et puis je termine en disant « Attention oui, c'est des biens d'équipement, mais c'est aussi des biens de consommation. La puissance industrielle allemande, par exemple, la voiture et la chimie. La chimie, on n'en peut plus. La chimie, on n'en veut plus. Le rachat de Monsanto par Bayer fait que Bayer, aujourd'hui, est la cible de toutes les contestations partout dans le monde, parce que cette chimie agressive, on n'en veut plus. Et la voiture, pardon, mais la voiture, demain, c'est la voiture électrique. Mmh. Et où est la valeur ajoutée dans la voiture électrique, dans les batteries, ça vient d'Asie, dans les logiciels, ça vient des GAFA. Donc attention à toutes ces fragilités.
Waouh, beaucoup de choses sur la table, Christian Chavagneux. Je vais résumer, vous dites que l'Allemagne est certes un champion industriel, surtout si on le compare à la France, mais l'Allemagne a une grande dépendance à la Chine. L'Allemagne, de toute façon, va être confrontée à une robotisation des marchés émergents qui va ralentir. Et puis l'Allemagne, elle est spécialisée dans l'automobile, la chimie, et ça, ça va être...
Des
secteurs en déclin. Est-ce que, Laurent Bigorne, vous partagez cette photographie sur l'Allemagne, un champion industriel, vrai ou faux?
Ouais. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Christian sur les performances, si ce n'est les prolongés d'une réflexion, c'est que les carnets de commandes sont pleins. Les carnets de commandes sont pleins comme ils n'ont sans doute jamais été, ce qui veut dire que, bien sûr, Christian a raison de dire qu'il y a un essoufflement, il y a un danger politique, parce que la Chine, aujourd'hui, c'est une somme de tensions avec les États-Unis qui est l'autre. J'allais dire grand pays auquel l'Allemagne se réfère sans cesse. Donc il y a un moment ou un autre, on sent bien que les États-Unis vont nous demander de choisir, vont demander aux uns et aux autres de choisir. Mais d'abord, il y a deux choses qui vont, aller dans le sens de la puissance allemande. Premièrement, il y a un arrière-pays allemand qui s'appelle l'Europe. et qui, au titre du commerce intracommunautaire, reste quand même, j'allais dire, vraiment un terrain de jeu et un terrain d'atterrissage pour l'Allemagne. L'Allemagne a bénéficié énormément de la construction européenne à deux titres, la zone euro et l'ouverture à l'Est, d'abord comme marché, mais aussi comme zone de production. Et puis, il faut aussi parier sur la capacité du tissu productif allemand, qui est très ductile, qui est très agile, qui est très familial, qui est très disséminé partout ailleurs en Allemagne, pour aller très très vite aussi sur des évolutions à entreprendre. On oublie toujours, mais un des premiers véhicules électriques au monde a été produit par BMW, qui est une entreprise évidemment gigantesque, mais familiale. Et je pense que ce tissu productif allemand, il ne faut pas qu'on le sous-estime.
Donc vous dites, les fragilités sont pas si énormes.
Elles ne sont pas que là, elles existent, elles ne sont pas que là où Christian les a désignées. Je pense que la question du modèle énergétique allemand est pour moi une fragilité assez considérable aujourd'hui.
C'est-à-dire, allez-y, mettez-le sur la table.
C'est-à-dire que la Marienne est plus bien qu'elle est. C'est-à-dire qu'au moment de la campagne, on annonce énormément de choses, et donc les Allemands en campagne, depuis un an, nous ont annoncé, ce qui est normal, puisqu'il y avait un jeu avec les Grünen, avec les Verts, que l'Allemagne allait revoir à la hausse ses objectifs, d'ailleurs non pas réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, mais de 65%, ne pas attendre 2050 pour la neutralité carbone et donc faire dès 2045. Quand on regarde la réalité aujourd'hui du mix énergétique allemand, du mix électrique, oui, pour produire l'électricité, 25% de houille et de lignite, donc du charbon sale, 12% de gaz et une part du gaz qui parfois peut monter. Je prends l'exemple cette année, il y a eu très peu de vent au premier semestre en Europe, et la part des énergies carbone est montée à 56%.
Parce que les
50%.
Éoliennes ne tournaient pas assez.
Exactement. Donc des fragilités énergétiques.
On va continuer là-dessus. Christian, il faut quand même rappeler que un des grands moments, une des grandes décisions d'Angela Merkel, c'est après Fukushima. Pourquoi ils en sont à ce niveau de fragilité énergétique? C'est parce qu'elle a dit... On sort du nucléaire.
Alors, il y a, une décision du gouvernement Schröder avec les Verts qui ont décidé de sortir du nucléaire. Angela Merkel
a accéléré, oui.
Non, d'abord elle est arrivée, elle a dit j'arrête, et puis après Fukushima, elle a dit finalement je reprends, c'était une bonne idée. Donc elle n'a fait que prolonger une idée SPD Grünen. Qu'est-ce qui s'est passé? Laurent nous a fait juste la photo. Je vais vous faire le film sur les 10 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé? La production nucléaire a été divisée par deux. En Allemagne. Celle du charbon a été divisée par deux. L'Allemagne n'a pas remis en route des vieilles centrales. Le problème, c'est que les centrales qui tournent, Laurent l'a dit justement, c'est des centrales au lignite qui sont extrêmement productrices de CO2. Mais la production d'énergie renouvelable a été multipliée par 2,5. Donc, on est sur un mix énergétique de transition aujourd'hui qui fait qu'avec moins de nucléaire, avant d'arriver à l'énergie renouvelable totale, il va falloir d'abord mettre des réseaux d'électrification qui vont passer. La production intermittente est au nord et les usines sont au sud. Donc, il va falloir bien les transporter. Les gens ne veulent pas avoir des lignes à haute tension, les Allemands ne veulent pas avoir des lignes à haute tension qui traversent tout le pays. Il va falloir l'enterrer, ça va coûter cher, mais c'est en train de se faire. C'est en train de se faire, donc on est sur une période de transition où le charbon vient un peu compenser le nucléaire, mais où en 2020, pour la première fois, l'électricité renouvelable, la source d'électricité a été majoritairement renouvelable. L'Allemagne est en train de faire cette transition que nous, on n'a même pas commencé.
Laurent Bigorne.
Oui, trois points de nuance. Le premier, c'est que la part du charbon doit structurellement baisser, elle baisse très très peu vite, hein, 2038, et un des enjeux de la campagne, c'est de savoir si ce sera 2030, mais la part du gaz augmente, au point que les analystes nous disent que dans les années qui viennent, il y aura une hausse des émissions de CO2 en Allemagne de l'ordre de 15%. Donc une transition qui est plus émettrice, ça n'est pas une vraie transition.
Ça dépend qui viendra au pouvoir, quelle coalition, Laurent.
On va voir, mais structurellement, il y aura beaucoup de gaz. C'est tout le sens de l'arrivée de Nord Stream 2 et de la dépendance au gaz russe.
Tout à fait.
Deuxième chose, il va falloir tripler encore les installations solaires et éoliennes avec de plus en plus de réticence des riverains, comme dans tous les pays du monde. Hein. Mmh. Troisième sujet, et Christian a raison d'assister, le réseau électrique, on produit au nord, on consomme au sud, on a fait seulement en Allemagne 15% du chemin.
C'est vrai.
Donc, de l'importance quand même des choix qui vont être faits à cette élection, en effet.
Zéro chemin en France, hein. 15% du chemin en Allemagne, zéro en France.
Christian, deuxième idée reçue, l'Allemagne c'est un super modèle social.
Ah, super modèle social, super modèle d'emploi,
ouais, l'Allemagne. Plein emploi, oui c'est
le
ça, plein emploi.
D'emploi, hein, le taux de chômage aujourd'hui en France 7,9%, en Allemagne 3,6%. Pourquoi est-ce qu'on fait pas comme les Allemands? Attention quand même, à la fin juin 2021, ce sont les derniers chiffres qu'on a, 18% d'emplois à temps partiel en France, 28% en Allemagne. Et si je prends les femmes, 48% en Allemagne, 28% en France. En fait, le plein emploi allemand, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste juste à réduire la quantité de travail par tête pour produire plus d'emplois. C'est une politique de réduction du temps de travail subi avec un appauvrissement des salariés. Et la corrélation en Europe, elle est vraie partout. Tous les pays qui aujourd'hui ont un taux de chômage faible sont ceux où la part du travail à temps partiel est la plus élevée. C'est ce que Olivier Passé, l'économiste de Xerfi, a appelé l'arnaque du plein emploi. Il n'y a pas de plein emploi en Allemagne. Ce sont les mini-jobs.
450 euros par mois.
Par exemple, ça montre que ça appauvrit et c'est une part extrêmement importante. L'OCDE nous dit en 2020, un Allemand ou une Allemande travaille au total sur l'année 1332 heures. En France, c'est 1402 heures. Donc voilà, c'est ça ce modèle allemand. Et j'ajoute que l'écart salarial homme-femme est beaucoup plus important en Allemagne qu'en France.
Laurent, sur la photo sociale, l'emploi.
Oui, il y a des choix différents qui ont été faits entre les deux pays. C'est-à-dire que l'Allemagne a fait le choix d'inclure un maximum de personnes dans l'emploi, quitte d'ailleurs à ce que certains métiers, comme vient de le dire Christian, soient plus précaires et que la proportion des temps partiels soit plus forte. Nous, on a fait un choix où on a laissé davantage de gens en dehors du marché du travail. Et j'aimerais insister sur un chiffre qui, pour moi, est très évocateur. Le système aujourd'hui français fait qu'il y a 15 ou 20% de gens qui sortent de notre système éducatif sans aucune qualification. Et qui vont se retrouver dans les catégorisations de je ne suis ni en emploi, ni en formation, ni à l'école.
Ça fait combien de personnes en tout ?
Bah, écoutez, chaque année, ça fait à peu près un flux de 150 000 personnes en France.
Les décrocheurs.
Décrocheurs. On n'est qu'à 5% en Allemagne. C'est toujours trop. Mais on est au tiers de ce qu'on vit en France. Donc, il y a quand même un système de formation qui est extraordinairement résilient. Et donc, on est face à deux choix sociaux. Un choix où, effectivement, il y a sur le marché du travail des gens qui vont être plus précaires, moins bien gagner leur vie. Le pari, c'est que la formation va leur permettre, évidemment, d'assumer leur trajectoire, y compris parce que sur ce marché du travail, il y a beaucoup de personnes immigrées. Et de ce point de vue-là, il y a des performances, qui sont meilleures en Allemagne qu'en France. Du point de vue français, on a accepté une exclusion plus forte du marché du travail et on corrige cette exclusion par les revenus de transfert. C'est deux choix et je pense qu'il faut vraiment regarder comme ça. Maintenant, la réalité allemande, c'est qu'aujourd'hui, la richesse par habitant, le PIB par habitant, il est 20% supérieur en Allemagne. Et on a vu une chose depuis 2012 importante, c'est qu'il y a eu un rattrapage, des inégalités salariales et un rattrapage qui est aussi au cœur de la campagne, puisqu'on a augmenté le revenu minimum une première fois en Allemagne en 2015 et on s'apprête à le refaire sans doute au terme de cette campagne.
C'est un des thèmes de campagne sur le programme du social-démocrate.
Il n'y a pas d'opposition des milieux d'affaires. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le sujet, c'est moins le prix du travail que la rareté de la main-d'œuvre. C'est ça aussi la réalité.
Tout ce que dit Laurent est vrai, mais ça n'empêche pas une montée des inégalités entre 2000 et 2020. Sont passés les 10% les plus aisés en 2000 avaient concentré 32% des revenus, c'est 37% en 2019. En France, c'est plutôt stable, voire plutôt en diminution. Et si vous prenez le patrimoine et non plus les revenus, les 10% les plus riches concentrent 95% de la richesse des entreprises. C'est absolument fabuleux, c'est incroyable. Laurent l'a dit, c'est parce qu'il y a beaucoup d'entreprises familiales. Sauf que, comme l'explique le Fonds monétaire international dans une note très récente, les entreprises ont été ultra rentables parce qu'elles ont contraint les salaires. Donc vous retrouvez avec des entreprises ultra rentables.
Modération salariale. Oui.
Avec la modération salariale, très concentrée dans une petite
avec masse. Avec une évolution.
Les inégalités explosent et donc vous n'avez pas beaucoup de demandes, pas beaucoup d'importations. Ça contribue à faire l'excédent commercial.
Avec une évolution depuis 2012, il y a plus cette modération salariale. Et puis peut-être.
Si, il y a quand même. C'est pas parce qu'il y a un salaire minimum.
Beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on voit très bien que le patronat allemand a pris conscience que le sujet, c'était véritablement celui de la main-d'œuvre. Et avec deux sujets que je trouve importants, il y a moins de discrimination à raison de l'origine sur le marché du travail allemand. Pour une raison simple, c'est qu'il est plus efficient et qu'il y a plus de gens en emploi. Et puis, ça a été souligné notamment par Dominique Seux, il y a de plus en plus de femmes qui sont sur le marché du travail, contrairement à une idée reçue.
C'est vrai. Les 57% des secteurs économiques sont sans convention collective, alors qu'en France, c'est beaucoup moins. Donc, c'est plus difficile.
Allez, dernière idée reçue à laquelle nous nous attaquons, vous attaquez, c'est l'Allemagne est un bon gestionnaire avec ses finances publiques. Vrai ou faux ? Christian sourit déjà. Alors Christian,
hors Covid, parce que évidemment ces deux années un petit peu particulières, l'Allemagne est en quasi-excédent budgétaire au cours des 10 dernières années. Incroyable, la dette publique à la fin du premier trimestre.
On en rêve, donc vous pouvez me dire autre chose.
Vous en rêvez peut-être, pas moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. La dette publique à la fin du premier trimestre de cette année, c'est 118% du PIB en France. France, c'est 71% en Allemagne. Donc si vous êtes une inquiète de la dette publique et des déficits, vous êtes content d'être allemand. Sauf que quand vous regardez ce qui se passe derrière, eh bien 2019, c'est la dernière année, on peut faire des comparaisons un petit peu honnêtes. Si vous prenez l'ensemble des investissements publics que vous voulez ramener à la richesse produite en Allemagne, le moyenne de la zone euro, c'est 2,8%. La France, c'est 3,7%. En Allemagne, c'est 2,5%.
Attendez, Christian, là vous m'avez
les investissements
dit, voilà,
publics.
Non, on va juste dire aux gens,
Allemagne,
ils mettent moins de sous sur les ponts, moins de sous sur les réseaux télécoms.
Moins de sous sur la numérisation.
L'argent public, ils ont trop eu le fétichisme des comptes, c'est ça?
Et moins de sous sur l'école. Le déclassement dans le classement PISA qui reflète l'insuffisance des dépenses d'éducation.
Laurent. Alors, je préférerais avoir les résultats PISA de l'Allemagne que ceux de la France, mais c'est un autre débat.
Ni l'autre.
Alors, je préférerais quand même. Surtout d'ailleurs si j'étais d'origine immigrée. Parce qu'ils sont bien meilleurs pour ça. L'Allemagne n'est pas un grand pays d'infrastructure, on le sait. On a vu le feuilleton de l'aéroport de Berlin. 10 ans pour construire un aéroport, ça nous paraîtrait même en France un peu long. Il va y avoir des effets de rattrapage. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont la capacité budgétaire. Je rappelle que dans la crise, ils ont construit un plan de relance plus important que le nôtre. Tout simplement parce qu'ils avaient la capacité budgétaire de le faire. Et puis, on les voit faire des choix audacieux. Je vais en citer deux, les bornes électriques. On va avoir beaucoup plus d'investissements publics en Allemagne sur cette question. Deuxième sujet, ils sont en train d'automatiser à très grande vitesse, de digitaliser tous leurs aiguillages. C'est assez cohérent avec ce qu'ils veulent faire. On n'en est pas complètement
numériser,
là en France.
Le exactement. Numérique. Ok. Donc ils vont mettre plus d'argent public, ils vont augmenter leur dette. C'est la question, c'est une des questions de ce scrutin. Quel rapport les Allemands vont avoir avec leur dette?
Ça dépend de la coalition qui va sortir. En tout cas, il n'y a que les Verts vraiment qui veulent sortir de ce fameux frein à la dette, vous savez, qui impose
l'expliquer encore, allez-y.
Ça veut dire en Allemagne, dans la Constitution, ce qui est quand même absolument dingue, dans la Constitution, vous avez un déficit budgétaire qui ne peut pas aller au-delà de 0,35% du PIB. Et si vous êtes loin, il faut absolument revenir. L'Allemagne, c'est un pays où les ménages épargnent énormément, où les entreprises épargnent énormément, et donc vous avez un surplus d'épargne absolument incroyable par rapport à l'investissement. N'importe quel économiste vous dira que dans ces conditions, il faut que l'investissement public se substitue à l'investissement privé.
Il faudrait que ça ruisselle,
mais énormément, pas avec trois bouts d'investissement, comme vient de nous le dire Laurent.
Allez, le mot de la fin pour Laurent.
Oui, moi je fais confiance aux Allemands pour, relever les défis à la fois industriels et d'infrastructures dont on a parlé. Il y a un vrai sujet qui est sur la table et qui, à mon avis, peut donner lieu à des conversations européennes un peu nourries, c'est quand même la question du vieillissement dont on n'a pas parlé. Et c'est à mon avis le talon d'Achille.
Ouais, c'est un défi majeur pour l'Allemagne. Néanmoins, on n'a pas parlé de tout, mais on a, grâce à vous, une photo plus précise. Et c'est dans ce paysage que ressurgit une question enterrée depuis presque un quart de siècle. Est-ce qu'il faut aux Allemands un impôt sur la fortune? La taxation des plus riches, c'est un des thèmes de campagne portés par la gauche, mais aussi par 44 millionnaires allemands et autrichiens. Ils ont une initiative, ça s'appelle « Tax Me Now ».
Yo.
Okay, perfect.
Was geht's? Ralf Zwickert, guten Morgen.
Guten Morgen.
Bonjour.
Ich wohne in Karlsruhe.
Je vis à Karlsruhe, ou plutôt à Ettlingen, à 15-20 km de la France. J'ai une vie de rêve. Je suis marié à une femme merveilleuse. Je suis avec beaucoup de gens formidables qui travaillent aussi avec moi pour rendre le monde plus beau. Je vis dans une maison relativement modeste, environ 230 mètres carrés. Pas de villa, ça ne m'intéresse pas.
Ralf Zwickert, est-ce que vous êtes un millionnaire philanthrope?
Oui, même si je me décrirais plutôt comme un investisseur d'impact. Ça signifie que j'essaye de façonner le monde avec mon capital en investissant dans des entreprises qui tentent de résoudre des problèmes sociaux ou environnementaux. Je suis un protecteur de l'environnement et de la société. Comme vous le savez, nous sommes à la veille des élections en Allemagne et j'ai un peu de mal avec certains points dans les programmes, en particulier de la CDU et des libéraux du FDP, car ils visent à continuer à faciliter la vie des personnes riches comme moi, et ça ne devrait pas être le cas. Nous allons bien. D'où notre initiative, qu'on a appelée « Tax Me Now », taxez-moi maintenant. Nous préconisons que les riches payent plus d'impôts parce que si vous observez l'évolution de la situation en Allemagne au cours des 30 dernières années, vous constaterez que pratiquement tous les impôts qui touchent les riches ont été supprimés. Ça veut dire que ces dernières années, les choses se sont très très bien passées pour les riches en Allemagne et nous voudrions essayer de parvenir à plus d'équité et que les riches contribuent davantage.
Merci beaucoup, Ralf Schickert.
Merci.
En Allemagne, l'impôt sur le patrimoine a été supprimé en 1997 par le gouvernement Kohl. Mais aujourd'hui, en 2021, les sociodémocrates, les Verts et la gauche de Die Linke remontent au créneau « il faut taxer les plus riches ». À cette heure, les sondages décrivent un scrutin imprévisible. Si l'on en croit des banquiers et des avocats fiscalistes, certaines grandes fortunes allemandes seraient si inquiètes qu'elles auraient commencé à transférer leurs avoirs en Suisse. L'impôt sur la fortune, c'est le nouveau débat allemand et c'est aussi le dossier de notre correspondant Ludovic Piétenu.
Augmenter les impôts n'est pas la bonne solution à ce stade de notre économie.
Nous vivons une situation où les plus pauvres de notre pays s'appauvrissent et les plus riches s'enrichissent.
Annalena Baerbock, candidate Les Verts.
Plus une situation post-coronavirus où nous devons investir dans les hôpitaux, dans les écoles, dans la numérisation et plus encore dans la protection du climat. Et nous devons donc les financer.
Nous avons maintenant 400 milliards d'euros de dettes.
Olaf Scholz, candidat SPD.
À la fin de l'année prochaine, nous aurons dépensé beaucoup d'argent pour lutter contre la crise. Et si en plus, maintenant, vous dites qu'il faut baisser les impôts des plus riches, ça n'ira pas.
Pour financer tous ces investissements, je propose comme contre-financement d'augmenter légèrement le taux de l'impôt sur le revenu à partir de 100 000 euros. Et cela n'affectera pas les entreprises, donc ce que vous avez dit est faux. On veut augmenter le taux d'imposition de ceux qui ont beaucoup d'argent et nous essaierons un impôt sur la fortune.
C'est la différence fondamentale entre moi et mes deux concurrents.
Armin Laschet, candidat CDU.
Je mettrai un terme à toutes les hausses d'impôts. Pas de nouvelles charges sur le foncier, ni sur les successions, ni sur le revenu.
C'est un endroit bien connu de Berlin où je me trouve à présent, devant la porte de Brandebourg, sur la Pariser Platz. La place de Paris. Là, je me rends à un événement de campagne, comme il y en a beaucoup, hein, toujours assez classique. Là, c'est Armin Laschet, le candidat de la CDU et de la CSU, qui est invité par l'Institut économique DIW, un gros institut, hein, l'un des plus grands instituts économiques allemands. Et on va rencontrer son président, Marcel Fratscher, un homme qui plaide pour le retour de l'impôt sur la fortune.
L'Allemagne et l'Europe aujourd'hui sont confrontées à d'énormes défis pour faire face à la pandémie. Faire plus pour la protection du climat, la numérisation, faire avancer la transformation de l'économie et aussi pour permettre plus de justice sociale et ouvrir des opportunités. Cela signifie que l'État en Allemagne, en France et en Europe devra dépenser beaucoup d'argent dans les années à venir. Et nous devons nous demander comment financer cela. Nous avons un système fiscal dans la plupart des pays européens. En Allemagne plus qu'ailleurs, en France aussi, où les personnes qui travaillent sont lourdement taxées et les revenus du patrimoine le sont très peu. Et chez nous, particulièrement, la fortune est beaucoup moins imposée. Alors que parmi ces grandes fortunes, certains sont financièrement capables d'aider davantage la communauté.
Vous nous dites que ce n'est pas seulement à cause de la pandémie. Il va y avoir de plus en plus de retraités, donc moins d'actifs au travail et donc moins de revenus pour l'État allemand. Votre idée, c'est un impôt pour tous les riches de 10%. Et vous dites que ça rapporterait 5-6 milliards d'euros dans le budget ?
Pour moi, la première priorité est que les biens de grande valeur soient taxés beaucoup plus lourdement. Deuxièmement, il nous faut sur les droits de succession un impôt plus équitable. Plus de la moitié des grandes fortunes privées d'Allemagne, soit dit en passant aussi en France, n'ont pas créé cela de leurs mains. Ils en ont hérité ou reçu en cadeau. Ils doivent participer davantage.
On est passé en Allemagne de 1 million à près de 3 millions de millionnaires. Plus de riches, il y a aussi plus de pauvres.
40%
40% des Allemands n'ont pratiquement aucune richesse, aucune épargne. Et c'est pour moi le vrai problème. Ce n'est pas qu'il y ait des gens riches, mais qu'ici, beaucoup, beaucoup de gens n'ont rien. J'ai l'air d'un économiste français à parler comme ça. J'ai un prénom français et je fais certainement partie d'une minorité en Allemagne, car beaucoup d'économistes adhèrent encore à l'ordolibéralisme de cette vieille école de pensée allemande que je considère comme très dépassée. Beaucoup croient encore que les baisses d'impôts stimulent l'économie. C'est un problème. Je le critique. Je pense que beaucoup de mes collègues en Allemagne se trompent.
Je viens de revenir de cette interview avec Marcel Fratscher. Je suis dans le bureau de Radio France à Berlin, à mon bureau, et je vous avoue que c'est vrai que ça fait un peu réfléchir cette idée d'impôt sur la fortune. On se dit pourquoi pas, sauf qu'il a existé hein, en Allemagne au milieu des années 90, en 95, et qu'il a été censuré par la Cour constitutionnelle fédérale. Alors forcément, le politique a reculé. En 1997, il n'y a plus eu cet impôt sur la fortune. Ça veut dire que pour bon nombre d'économistes, si on cherche à le remettre, la Cour va de nouveau le censurer. C'est l'opinion en tout cas de Justus Okap, économiste de la concurrence à l'université de Düsseldorf, que je vais appeler tout de suite via mon ordinateur. Un, deux, allô. Allô, guten Morgen, wie geht's?
Vous allez bien?
Très bien, très bien.
So, der Vermögensteuer. In Französisch, ja. On dit l'impôt sur la fortune.
Je pense qu'une approche plus intelligente serait de changer l'impôt sur les successions. Les droits de succession ont cet avantage de contrôler la richesse. C'est-à-dire que quand une personne décède, l'héritier reçoit l'argent et à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple d'évaluer le patrimoine ou encore de calculer la valeur de ces entreprises.
Vous pensez quoi, vous, de cette initiative Tax Me Now, taxez-moi maintenant, ces millionnaires qui demandent à payer plus d'impôts, ce sont des philanthropes ?
S'ils sont philanthropes, personne ne les empêche de donner leur argent à qui que ce soit dès maintenant. Ils peuvent aussi le donner à l'État s'ils le veulent. Non, si je comprends bien l'initiative, ils disent taxez-moi et mes collègues. Ils ne veulent pas seulement être taxés eux, mais tous ceux qui seraient aussi riches qu'eux.
Bon, je vous avoue être un peu perdu dans ce débat d'économiste, car dans l'idée de la progressivité de l'impôt, plus on a d'argent, plus on paye.
Bien sûr, avec l'impôt sur les revenus, on a aussi cette progressivité. Rajouter un impôt sur la fortune, je pense que le problème est très différent. Si vous avez quelqu'un qui s'est enrichi grâce à ses biens immobiliers, pourquoi devrait-il être plus taxé que quelqu'un qui investirait dans une collection d'art ? Et ce qui a rendu cet impôt inconstitutionnel à l'époque. La Cour, c'était son argument, avait estimé que tous les différents types de richesses devaient être imposés de la même manière. Que votre fortune soit de l'argent, des biens, des propriétés immobilières ou une entreprise. Et calculer la valeur de ces différentes choses est extrêmement compliqué. Cela représente un effort énorme pour les fonctionnaires du fisc chaque année. C'est tellement de travail qu'on a préféré l'abolir.
Ok. Justus Haukap. Merci beaucoup. Vielen Dank.
Tschüss. Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et le directeur général d'AXA est le grand témoin de ce « On n'arrête pas l'écho » spécial Allemagne. Bonjour Thomas Buberl.
Bonjour Alexandra.
Vous avez en fait trois nationalités, c'est ce qu'on disait pendant le reportage, j'avais dit deux. Vous êtes allemand, français et suisse. Alors vous avez donc une connaissance fine des trois pays. Là on va parler de l'Allemagne. Vous voyez revenir ce débat sur la taxation des riches dans la campagne. Ça fait 25 ans que les Allemands n'ont pas parlé d'impôt sur la fortune. Est-ce que ça vous surprend ?
Non, pas du tout, parce que ça s'inscrit vraiment dans cette politique pragmatique et rigoureuse du budget. Jusqu'au moment du Covid, l'Allemagne a très très bien géré les finances publiques. Pendant le Covid, l'Allemagne a beaucoup investi, et si on investit, si on prend plus de dettes, pour l'Allemand et l'Allemande, c'est clair, il faut le repayer. Et repayer, ça veut dire chacun, chacune doit contribuer à ça. Ça, c'est le modèle social en Allemagne.
Et en 2000, je relisais une interview de vous en 2018, où au moment où le gouvernement Merkel 4 s'installait, vous disiez « il faut absolument que le pays se dote d'une bonne stratégie ». Vous citiez trois sujets majeurs. Un, la bonne répartition des fruits, des efforts passés pour atteindre la réussite. Donc il y avait quand même déjà ce sujet de, des inégalités. Deux, les infrastructures. Trois, le numérique. Est-ce que trois ans plus tard, vous vous dites « ces dossiers-là, ils ont avancé ou pas du tout ?»
Ils ont en partie avancé. Aujourd'hui, je veux dire, il y a trois choses qui sont un peu différentes. Je pense que le premier sujet de défi reste le sous-investissement. Là, vous avez certainement la question de la transition énergétique. Comment on peut sortir de cette dépendance du gaz et du charbon? Et certainement aussi le retard sur l'investissement de numérisation. Deuxième sujet, à mon avis, c'est le vieillissement de la population. Bientôt, vous avez 25% de la population qui sont au-delà de 60 ans. Qu'est-ce que l'Allemagne fait pour recréer cet équilibre? Et troisièmement, à mon avis, une chose a beaucoup changé, c'est le rapport à la Chine. C'est la question de la dépendance du secteur automobile vis-à-vis de la Chine. Et la Chine n'est plus un grand marché, n'est plus la partie production partielle de l'Allemagne. C'est devenu un concurrent qui est aujourd'hui dans la confrontation frontale avec l'Allemagne.
Et sur ces trois sujets, est-ce que tout dépendra? Est-ce que les choses seront différentes? Les choix sont très différents suivant qui sera le vainqueur de l'élection ou quelle sera la coalition?
J'espère pas, parce que la chose que l'Allemagne doit avoir le plus maintenant, c'est la continuité, mais aussi la détermination d'attaquer ces sujets.
Et mais par exemple, sur la transition énergétique, on se dit que si jamais il y a une coalition avec les Verts, ça ira vraiment plus vite, et du coup, ça peut avoir un impact sur la compétitivité. Il peut y avoir des choix quand même différents sur la transition, la vitesse.
Ça, c'est certainement clair. Je pense que la question de la transition énergétique est acquise. Tout le monde a compris il faut la neutralité carbone, et le nouveau objectif de 2045 est acquis. La question est le schéma et l'agressivité. Et là, vous voyez, l'SPD est plutôt sur 2030.
Ça, ce sont les sociaux-démocrates,
c'est ça,
oui.
Et les Verts plutôt sur 2030. Mais je pense là aussi, plus qu'on peut pousser, mieux que c'est. Et le gouvernement de n'importe quelle couleur va faire face à cette pression de vitesse sur la transition énergétique.
Donc quand vous dites plus ça pousse, mieux c'est, vous n'êtes pas inquiet d'une transition trop rapide pour le modèle économique, la compétitivité?
Cette transition se fait par les investissements. Et aujourd'hui, il faut que l'investissement suive vraiment et qu'il le fait. Aujourd'hui, les Allemands épargnent trop. Les entreprises ne s'investissent assez dans cette transition. Et moi, je suis très confiant avec la dynamique européenne qu'on voit sur le Green Deal aujourd'hui, avec l'entente en Europe sur la nécessité de vraiment franchir cette transition énergétique. Je suis très positif qu'on va y arriver.
Thomas Buberl, vous avez parlé de vous-même du rapport et tout de suite du rapport des Allemands à la dette. Alors, il y a une question qui intéresse beaucoup les Français, c'est est-ce que l'Allemagne a profondément changé? On a vu pendant la pandémie que Berlin a dit OK pour la mutualisation de la dette avec 27 pays. Est-ce que ça veut dire que, eh bien, que ce rapport très rigoureux peut changer, qu'on peut avoir peut-être des règles budgétaires plus souples, ou bien non, là, les Français on se font une fausse idée de ce qui va se passer?
Je pense que c'est une continuité du pragmatisme et d'une politique rigoureuse, parce que l'Allemagne a vu qu'il faut investir pendant le Covid pour vraiment garder l'équilibre européen. Il faut investir aussi au niveau européen, mais ça se fait dans des conditions assez dures. Aujourd'hui, quand les pays font leur demande d'investissement vis-à-vis la Commission européenne, c'est assez dur d'avoir l'argent. Il faut quand même avoir des cas et des histoires et des investissements assez bien travaillé, avec des retours assez vite. C'est pas une distribution, un arrosage de l'argent partout.
Mais vous croyez que les critères, c'est-à-dire pas plus de 60% de dette sur PIB, le déficit, est-ce que ces critères-là, ils sont dépassés, mais l'Allemagne va vite vouloir en réétablir de nouveau, quel que soit le vainqueur, ou bien peut-être que suivant le vainqueur, elle sera plus souple?
Je pense. On a vécu maintenant une période assez extraordinaire avec le Covid, où on a tous dépassé ces fameux critères du pacte de stabilité et croissance. À un moment donné, et ça va être bientôt, on va revenir à la question, quel est ce nouveau pacte de stabilité? Et peut-être ça se passe même sous la présidence française de l'année prochaine. Il y a une question, à mon avis, à franchir. Il faut revenir à une discipline, mais pour vraiment avoir la capacité d'investir dans la transition énergétique, il faut régler ce sujet en dehors de ces critères. Mais revenir à la aux rigueurs de dépenses publiques, c'est absolument nécessaire parce qu'il faut pas oublier, c'est ce qu'on dépense aujourd'hui doit être repayé par la prochaine génération, et on veut éviter à tout prix un conflit avec nos enfants, avec la prochaine génération.
Alors nous les Français, Thomas Buberl, on est toujours un peu obsédés par la comparaison avec l'Allemagne, et les Allemands, eux, en ce moment, ils sont très obsédés, vous l'avez déjà dit, par la Chine. Qu'est-ce qu'il est, il y a quelque chose quand même qui les inquiète dans cette relation?
Oui, parce qu'aujourd'hui, à mon avis, c'est une vieille histoire, la comparaison France-Allemagne. Il y a des raisons structurelles pourquoi les deux pays sont bien ou pas bien, mais chacun apporte quelque chose qui est très important. À mon avis, il faut augmenter un peu l'auteur du vu. Le problème aujourd'hui, c'est plus la France et l'Allemagne, c'est la question, la place de l'Europe dans le monde. Aujourd'hui, on voit qu'on est encore dans la définition qu'est-ce que c'est. Et la question, quel est notre modèle et comment on défend nos valeurs? Quelles sont nos règles, par exemple, sur la partie des données? Comment on peut s'assurer d'avoir un accès à la technologie? Et notamment, la question de la transition énergétique, à mon avis, est la clé. Mais il y a aussi la question, et ça, à mon avis, c'est la question la plus sous-estimée. Autonomie, indépendance veut aussi dire autonomie et indépendance militaire. Mmh. On parle pas du tout sur ce sujet.
Bah là, vous voulez dire, on ne parle pas de ce sujet dans la campagne allemande actuellement. Ça n'est pas.
La CDU a évoqué ce sujet. La question, est-ce qu'on revient au fameux 2% de l'OTAN? Mais en général, la stratégie militaire et économique en Europe, ça me manque.
Mmh. Puisqu'on en est aux enjeux européens, est-ce que tous les candidats, quels qu'ils soient, et toutes les coalitions qui pourront se former, elles seront Macron compatibles, puisque la France va arriver à la tête de l'Europe au 1er janvier.
Ils doivent être Macron compatibles et il faut que l'Europe bouge. Le pire qui peut arriver maintenant sont 6 mois de discussion de la coalition, de la nouvelle coalition allemande, et au moment où ils se sont mis d'accord, la France entre dans la dernière phase de campagne électorale. Là, vous avez une année blanche en Europe. On peut pas se permettre ce retard.
Thomas Buberl, vous avez voté, vous, là, ça y est?
Ah, bien sûr, bien sûr. Dans un moment tellement important, il faut que chaque vote compte.
Donc vous avez dit, cette fois-ci, il faut voter. J'ai encore quelques secondes, parce que quand même, ça nous intéresse dans cette campagne. Vous qui avez ce double regard, il arrive qu'en France, certains acteurs nous comparent à l'Allemagne et en tirent la conclusion que la France, elle est un pays en déclin. C'est un mot fort, déclin. Est-ce que vous avez ce regard, vous, sur la France?
Non, pas du tout. Je pense que les gens qui disent ça n'ont pas compris la France. La France est différente de l'Allemagne, et la France a une chance unique avec des grandes entreprises, quand même une histoire incroyable. Mais la France doit trouver maintenant, avec l'Allemagne, leur place dans le monde. Aujourd'hui, on est encore en basculement. Et je pense l'histoire des sous-marins montre quand même qu'il y a une nécessité de se mettre ensemble en Europe pour se définir et mettre à part aussi des autres.
Thomas Buberl, le directeur général d'AXA, merci beaucoup d'avoir été le grand témoin de ce On n'arrête pas l'écho.
Merci Alexandre.
Sandrine Foulon termine avec la vie au boulot en Allemagne. Vue d'ici, elle semble beaucoup plus démocratique avec cette fameuse co-gestion qui prévaut dans les entreprises. Est-ce que c'est un modèle parfait? Faut-il s'en inspirer?
C'est vrai, on importe beaucoup de choses d'Allemagne. On pourrait aussi faire venir ce modèle-là. Il est robuste, de qualité. Il date même d'avant Angela Merkel, c'est dire la codétermination. Attention, je vais le dire en allemand. La Mitbestimmung a été mise en place en 76 par le chancelier Willy Brandt. Et oui, elle fait envie à nos syndicats. Elle donne beaucoup de pouvoir aux salariés. Concrètement, ça veut dire que dans toutes les grandes entreprises de plus de 2000 salariés, la moitié des membres des conseils de surveillance sont des représentants important des salariés. C'est un tiers dans les entreprises de 500 à 2000 personnes. Et dans toutes les sociétés de plus de 5 salariés, les conseils d'entreprise, constitués exclusivement de représentants des salariés, ont un pouvoir de veto sur la plupart des décisions de la direction. Alors bien sûr, cette présence ne fait pas tout. Certaines directions ne jouent pas le jeu de la transparence des informations. On l'a beaucoup dit au moment du scandale du Dieselgate. Les représentants des salariés de Volkswagen n'ont pas pu empêcher la manipulation des émissions polluantes des moteurs. Mais globalement, le bilan de la codétermination est positif. Il sauve des usines et des emplois.
Est-ce que ça explique, Sandrine, que l'Allemagne soit plus industrialisée que nous, cette cogestion?
Oui, en tout cas, ça y contribue fortement. On ne prend pas les mêmes décisions quand on se croise physiquement dans les couloirs. En Allemagne, les sièges sociaux des grandes entreprises sont plus proches des sites de production. C'est ce que montre une étude de l'économiste Vincent Vicard. En France, ils sont dans leur écrasante majorité à Paris ou autour. La distance moyenne entre un siège et une usine est de 400 km. Loin des yeux, loin du cœur, il est plus facile de délocaliser. L'industrie allemande, qui se porte encore plutôt bien, a compris l'intérêt d'être ancrée dans les territoires. Évidemment, la codétermination dans les entreprises ne comble pas tous les manques. Le dialogue social dans les branches professionnelles reste très utile pour négocier les conditions de travail ou les augmentations de salaire. Or, dès les années 90, les Allemands ont été moins couverts par les conventions collectives, à tel point que les syndicats allemands, plutôt jaloux de leur pouvoir de négociation, plutôt hostiles aux décisions qui viennent du sommet, ont salué la création par la loi d'un salaire minimum pour tous il y a 7 ans. Ce SMIC ne règle pas tout, mais contrairement à ce que prédisaient les mauvaises langues, il est très très loin d'avoir fait exploser le chômage.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot.